Monsieur le Président de l'Institut national Genevois, Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes et chers concitoyens, le peuple de Genève, reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, adopte la présente Constitution. C'est ainsi que commence le préambule de la nouvelle Constitution que nous avons adoptée démocratiquement il y a 4 ans et qui nous régit désormais. Reconnaissance et connaissance vont de pair. Reconnaissance pour cet héritage humaniste, spirituel, culturel, entre autres, et connaissance de ceux qui y ont participé. C'est ainsi que reviennent à notre mémoire, pour n'en citer que 3, les noms d'Adhémar Fabry, de Jean Calvin et de James Fazi, chez qui nous sommes ce soir. C'est dans cet esprit que le cercle liberté de conscience et laïcité a imaginé ce cycle de conférences à l'enseigne de politique et religion. Il s'agit de nourrir la réflexion dans ce processus démocratique de transcription de l'article 3 de cette Constitution, de la transcription en article de loi, passage du niveau constitutionnel au niveau de la loi. Cet article 3, intitulé « Laïcité », nous rappelle, entre autres, je cite, « que l'État observe une neutralité religieuse », c'est le point 1, et que, deuxième citation, « les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses », c'est le point 3. C'est ça l'élément nouveau qui suscite la réflexion actuelle et qui aboutira prochainement à une décision par le vote du Grand Conseil. Aborder sereinement le sujet délicat et passionnant de la relation entre César et Dieu, la politique et la religion, voilà le but que nous poursuivons. La semaine dernière, le professeur Bayard concluait son exposé en disant « Les relations entre le politique et le religieux répondent à des contingences qui peuvent évoluer. » Ce qui nous intéresse, c'est donc l'évolution de ces relations. Ce qui est nouveau, c'est de définir dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui le point d'équilibre entre politique et religion, à la recherche de solutions novatrices qui doivent nous permettre de, et je fais encore une citation, de ce préambule de la Constitution, de préserver la justice et la paix en assurant le bien-être des générations actuelles et futures. C'est ça l'idéal de notre Constitution exprimée dans ce préambule, idéal qui devra orienter, imbiber chaque aspect de notre vivre ensemble, et vous devinez que l'enjeu est de taille. Monsieur le professeur, nous allons écouter votre façon d'envisager cet équilibre. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour nous aider, nous, Genevois, à trouver des réponses à la question que vous formulez ainsi dans votre ouvrage. La crise que nous traversons peut-elle être l'opportunité de revivre le sacré et de régénérer nos sociétés? La crise que nous traversons peut-elle, peut-elle être l'opportunité de revivre le sacré et de régénérer nos sociétés ? Ce que je prends le risque de transcrire ainsi, comment la dimension religieuse peut-elle contribuer à régénérer la dimension politique ? Et nous avons été sensibles, et c'est pour ça que nous avons invité, à l'une de vos affirmations, c'est encore une citation, « Si la dimension symbolique, qui est une des composantes des religions, n'est pas apportée, l'être humain se vide de sa propre substance, ouvrant la porte aux extrêmes, comme le terrorisme et les sectes. » Nous avons le plaisir de vous accueillir, monsieur le professeur. Vous devinez avec quel intérêt nous allons vous écouter. Vous êtes philosophe, vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste du symbolisme, vous êtes co-auteur de la série française télévisée Architecture et géographie sacrée et auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues. Vous vous êtes consacré depuis plus de 30 ans à investiguer les structures symboliques des sociétés traditionnelles et modernes. Vous avez dirigé pendant de nombreuses années le module d'anthropologie religieuse à l'École d'anthropologie de Paris et vous avez collaboré au traité d'anthropologie du sacré sous la direction de Julien Ries. Dans une époque comme la nôtre, où la préoccupation pour des sujets d'écologie, de la violence et le sacré dans nos sociétés, ou de la quête du sens métaphysique de la vie, réclame de nouvelles réponses et de nouvelles solutions, on peut deviner que votre conférence sur le sacré camouflé est attendu comme une source féconde d'inspiration pour le présent et pour le futur. Je vous donne la parole.
Tout d'abord, bonsoir et merci à Henri Nerfin de cette présentation. On verra si on est à l'auteur. Et aussi de votre institut, puisque c'est une préoccupation réelle, ces sujets que vous abordez dans les cercles liberté des consciences et laïcité et le rapport entre le politique et la religion. Je voulais faire un petit prologue simple. Quand j'écris l'ouvrage aux questions, Le sacré camouflé, et il est sorti un mois ou deux mois avant les attentats de Paris de 2015. Dans cet ouvrage, j'essaye justement d'expliquer comment le fait de ne pas respecter la dimension du sacré dans nos sociétés occidentales peut produire des extrémismes et des confusions aberrantes. Et j'explique un peu le mécanisme de tout cela. Ce serait long aujourd'hui de le développer, mais au moins, quand les événements se sont produits depuis 2015, j'essaye de réexpliquer quelque chose que je trouve important. Parce que depuis les Lumières, il était décidé petit à petit de mettre à l'écart une des dimensions essentielles qui composent la nature humaine. Petit à petit, nous sommes rentrés dans un monde plus mécanique, plus rationnel, où tout ce qui est la dimension symbolique et spirituelle est laissé de côté. L'argumentaire était très simple, je ne peux pas trop développer maintenant, en disant tout simplement que ce qui est convenable et ce qui est logique et ce qui peut être traité par ce qu'on appelle une logique d'exclusion, noir ou blanc, homme ou femme, religion ou politique, spiritualité ou matérialisme, etc. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous devons comprendre que malgré tous les efforts de déracinement et d'évacuation de la dimension du sacré dans toutes nos sociétés. Et c'est ça que j'explique dans mon ouvrage. La dimension du sacré n'a jamais quitté l'Occident. On parle du retour du spirituel. En réalité, il n'y a pas de retour du spirituel. Il est resté tout le temps. Simplement, il est resté camouflé, masqué. Parce que c'est une dimension inaliénable de la conscience humaine. Et c'est très intéressant parce que finalement, quand vous regardez un peu, et où il s'est réfugié, pour revenir à notre histoire du politique et de la religion, il s'est réfugié dans le profane. Il est camouflé dans le profane, dans des nouveaux territoires qu'il n'avait pas auparavant. Je vais essayer de m'expliquer, parce que c'est un peu choquant. Hein, le spirituel dans le profane, oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait vibrer la jeunesse et les moins jeunes? Le cinéma. Pourquoi fonctionne un film? Pourquoi Harry Potter a si bien fonctionné? Pourquoi Star Wars, la guerre des galaxies, a si bien fonctionné et continue à fonctionner? Pourquoi les sagas de Tolkien, mises en scène au cinéma, fonctionnent? Parce qu'ils correspondent à des archétypes, à des mythes, à des éléments symboliques qui datent déjà de la préhistoire, en passant par l'Orient, l'Occident et la Bible. J'explique dans mon livre exactement comment étaient conçus ces scénarios. Pour que vous compreniez comment on a piqué là, on a pris ici, et on a recréé un scénario mythologique, symbolique, initiatique, qui touche l'inconscient des gens. Le savent-ils? Ne le savent pas? Peu importe. Cette dimension qui ne fait pas simplement rêver, mais de se projeter dans la vie, qui est l'imagination, elle fonctionne. Avec mes élèves à l'école d'anthropologie, il y a un certain temps, on s'est posé la question, pourquoi fonctionnent les marques? Pourquoi tel produit, à côté d'un autre produit qui est identique, pourquoi tel produit fonctionne si bien et tel autre pas? Si au niveau produit, c'est le même produit. Parce que l'un a un mythe, a une symbolique et même une ritualisation pour l'achat. Ou pour pouvoir le réparer. Certains produisent des cercles fermés, des groupes auxquels il faut être initié et introduit. Et on a fait des études des marques et j'ai essayé de comprendre quel mythe antique, fonctionnait, ou biblique, fonctionnait. Et on s'est rendu compte que la plupart des marques qui fonctionnent bien dans nos marchés actuels sont véhiculent une dimension symbolique et une certaine sacralité. Et j'ai fait le parallèle entre le masque africain, que vous comprenez un peu, et la marque, puisque la marque, ce sont nos nouveaux masques. Donc vous me direz, détournement du sacré pour le profane. Oui, possible. Et je ne suis pas en train de dire que ceci est la religion, dans le sens que vous le concevez, que vous pouvez le concevoir. Mais j'essaie de vous expliquer que comme on ne l'utilise pas adroitement la dimension, mais comme cette dimension existe et que l'être humain a besoin des mythes, des symboles, des rêves, d'idéal, etc., il est repris où quelqu'un ou un groupe le souhaite. Donc, là-dessus, oui, le politique a une responsabilité très importante, puisque c'est lui qui devrait penser à l'intégrer dans l'éducation. J'ai participé dans les années 90 en France, des groupes de réflexion qui ont proposé à l'époque l'introduction du fait religieux à être enseigné à l'école. Évidemment, ceci était refusé par certains groupes qui se prétendaient aussi symboliques et initiatiques. Ce ne furent pas les religions qui sont opposées. Nous avons essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas de réintroduire la religion, mais la compréhension historique, culturelle de ces faits pour que des personnes, des croyances et origines distinctes puissent comprendre qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui pouvait les séparer et pouvoir dialoguer. Voilà l'essence de ma démarche. Et donc, je trouvais sympathique, réellement, la vôtre. Donc, on peut dire que malgré la sécularisation de nos sociétés contemporaines, le fond archaïque symbolique de l'être humain n'a pas disparu. Parce qu'on est pareil qu'avant. On a les mêmes, l'espèce humaine n'a pas changé depuis des centaines de millénaires. Je tiens à vous signaler ça pour que vous soyez tranquille. C'est-à-dire, l'humanité en tant que telle, elle est comme elle est depuis très longtemps. Et la carte de base de notre fonctionnement, elle est imprégnée là-dedans. Alors, ça peut bien fonctionner ou ça peut devenir pathologique. Comme pour la santé. Les bronches peuvent fonctionner bien, l'estomac parfait, d'un coup il y a une pathologie, donc il y a dysfonctionnement. Mais par rapport à ce terrain, par rapport à ces organes. Ces traces du sentiment religieux de la dimension du sacré se retrouvent aujourd'hui camouflées, comme je vous l'ai dit, dans nos pratiques quotidiennes. Célébration du Nouvel An, pendaison des crémaillères, tout ça, c'est une ritualisation. Voir et comprendre la société au-delà des apparences est notre enjeu. Parce que même si le discours dit « non, il n'y a pas », l'étude anthropologique démontre que c'est plein. J'ai expliqué pour la France, quand il a fallu bâtir le Parlement actuel sur le Palais Bourbon, ce qu'ils ont commandé, on eut l'idée de faire de lui le temple de la parole du peuple. Alors ils ont choisi Épidore, le théâtre d'Épidore. Et notre hémicycle, c'est une réplique à l'échelle du temple d'Épidore. Donc on n'a pas choisi n'importe quoi, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et le perchoir du président, etc., il vient de Versailles, du congrès de Versailles, ça donne la racine mythique et en même temps la légitimité qui se déplace de Versailles à Paris et il est placé à la même hauteur du rang le plus élevé de l'hémicycle. J'ai décrit tout le rituel parce qu'il y a un rituel très précis pour que le président rentre en séance. Avec la garde républicaine, avec les honneurs, etc. Tout en disant que la République n'a pas de sacralité, etc. etc. Je donne quelques exemples de l'utilisation dans le monde dit profane de la dimension du sacré. Voilà. Et en Suisse, je donnais aussi un exemple. Bon, vous pouvez vous amuser là-dessus. Si vous commencez à regarder le monde de cette manière-là, vous allez trouver de plus en plus de choses intéressantes. Alors, je voulais quand même clarifier et quelques mots pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Le sacré n'appartient à aucune religion. Je sais, c'est choquant parce que dans chaque religion, on prétend que la sacralité vient de sa religion. Et évidemment, si quelqu'un est croyant dans telle religion, il va pratiquer l'expérience du sacré dans sa religion. Mais le sacré précède même les religions. Je vais m'essayer de m'expliquer en anthropologue, sans être lapidé, j'espère. Ce qui fait de nous des êtres humains, est démontré dans le processus d'humanisation par deux faits. Le premier fait, c'est l'introduction de la mort dans la vie. Ça s'appelle les rites funéraires. Dès que les hominidés, précurseurs de l'humain, ont fait des rites funéraires, ils n'ont pas évacué la mort, mais l'intégré dans la pensée présente. Vous voyez ? Donc d'un coup, bon, il y a mort, il y a vie, puisque ceux qui font les rites sont des vivants. On n'a jamais vu des morts faire les rites funéraires. Et donc, la vie ensemence la mort et vice-versa. À partir de là, apparaît un deuxième événement en parallèle, l'art. Oui, les êtres humains commencent à représenter l'absence. Au départ, l'art, ce n'est pas le portrait des messieurs ou des madames. Au départ, l'art, c'est la représentation de quelque chose qui n'est plus, ou quelque chose qui n'est pas là, mais auquel on veut contacter. Donc, c'est un rapport avec l'invisible. Ceci fonde l'humanisme et l'humanité. Il n'y a pas encore de religions constituées, il n'y a pas encore de corps sociaux, mais il y a une dimension qui permet à l'être humain de se rendre compte de l'existence de quelque chose au-delà des apparences, au-delà des strictement visibles, mesurables. Et c'est ainsi que nous mesurons le concept du sacré ou de la sacralité, c'est-à-dire la possibilité de concevoir une toute autre existence, une toute autre réalité, au-delà de ce qu'on perçoit. Voilà. Et c'est pour ça que Rudolph Otto avait, dans le siècle dernier, dit le sacré est le tout autre. Et la capacité de concevoir une toute autre réalité par rapport à la réalité qu'on vit. Donc, c'est de là, c'est de ça qu'on parle quand on parle de sacré. Deuxième clarification, toujours par rapport au sacré. Le sacré représente aussi quelque chose que considéré inviolable. C'est-à-dire, on ne peut pas toucher à ça. C'est-à-dire, si on touche à ça, on transgresse, on viole quelque chose. De ce point de vue, le monde laïque, la République française, à une sacralité. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer que le sacré peut intervenir dans le profane. Parce que du moment que, par exemple, suite aux attentats, on a eu nos manifs, etc., vers où ? D'abord, vers la place de la République. Donc, vers un symbole. On n'est pas allé nulle part, quelque part par hasard. Les gens ont décidé un monument. Ce monument est symbolique. Il est en train de représenter un idéal qui est la manifestation, qui d'ailleurs ne revendiquait pas et qui était plutôt en silence et sans grand slogan. Ce qui est très important parce que vous connaissez nos manifestations sur place. Impliquait donc une communion, donc une ritualisation et un exorcisme face au cataclysme. C'est du fonctionnement symbolique. Tout ce qui s'est passé est du fonctionnement symbolique. Est-ce que le monde politique était ensuite à l'auteur ? J'ai cru qu'à un moment donné, ils allaient pouvoir être à l'auteur, puisque nous sommes en train de parler de la relation. Ils ne furent pas à l'auteur. Ils n'ont pas utilisé la spontanéité naturelle du peuple de récupérer le fonctionnement symbolique des choses précieuses et de l'encourager. Non, ça s'est banalisé. Je ne vais pas épiloguer. Simplement, je vous explique Et là, il y avait eu une opportunité, comme ensuite, sur novembre. Mais on a un problème d'auteur du politique par rapport à cette dimension qui apparaît naturellement chez des personnes qui n'ont pas peut-être pensé à ce qu'ils font. Moi, je l'interprète en anthropologue, mais vous comprenez bien que les gens ne sont pas dit « bon, mais selon l'anthropologie, le sacré, le symbolique, etc. » Ils sont sortis dans la rue, ça y est, quelque chose d'inconscient, mais profondément ancré en eux, les a fait bouger. Donc, pour moi, je reste optimiste, dans le sens que des millions de personnes portent génétiquement, à l'intérieur d'eux-mêmes, ce mécanisme. Vous voyez ? Mais bon, si vous me dites, il est politique, j'ai dit, bon, mais là, c'est un autre problème. Je voulais simplement vous le signaler. Donc, inviolable. Et de ce point de vue, donc, nous pouvons dire que la sacralité s'installe dans le profane, dans tous les milieux, dans tous les environnements où il y a un seuil qu'il faut protéger parce qu'on pense que le fondement de ces éléments-là ne doit pas être touché parce que tout peut péricliter. Voilà, par rapport au concept du sacré, plus vaste. Plus vaste que simplement la religion. Parce que j'ai peur de que les gens pensent, parce que chaque fois qu'on dit religion, les gens pensent à la sienne, ils sont pour ou contre, je ne sais pas si vous voyez. Et là, ça devient un débat petit. Par contre, la sacralisation, la sacralité est pour moi cette dimension de la conscience humaine qui nous permet à tous de lire un livre et pas faire du mot à mot. Parce que quand on lit avec quoi ? Avec les yeux au début. Mais ensuite, tout devient image, tout devient système de représentation, tout devient forme mentale, tout devient imagination. Vous faites lire ce même bouquin simplement à un lecteur mécanique, il n'y aura pas d'émotion. Il sera là, dans une tonalité sobre. Mais vous, en lisant, vous recréez quelque chose à l'intérieur de vous-même. Et vous le recréez où ? Dans votre imagination. Pas dans votre raisonnement. Parce que vous êtes en train de vous représenter des situations. Et l'imagination est une fonction fondamentale de l'être humain. Parce que grâce à l'imagination, on peut penser des choses qui n'existent pas encore. Oui, oui. Nous sommes l'unique animal sur Terre qui fait des projets. Oui, même pour les vacances, peu importe. Et nous sommes capables de faire venir ce qui n'existe pas encore ou ce qui existait. Nous pouvons actualiser dans le présent le passé et l'avenir. C'est formidable. Toutes les civilisations, tous les phénomènes culturels, tout ce qui nous a fait avancer est fruit de l'imagination. Quand vous pensez qu'au XVIIIe, XIXe siècle, l'imagination est la folle du logis, et on dit qu'il faut l'évacuer parce qu'elle n'est pas raisonnable, commence la sécularisation et l'incapacité à comprendre que raison et imagination fonctionnent ensemble. Et si elles ne peuvent plus fonctionner ensemble, la raison s'est vide de contenu. L'espace intérieur de l'être humain devient étroit. Et alors arrive ce qu'Hannah Arendt avait très bien expliqué par rapport au totalitarisme, l'homme esselé, l'homme qui est plus capable de dialoguer avec soi-même. Parce que pour dialoguer avec soi-même, il faut être deux. Je sais, c'est un peu stupide, mais il faut être deux. Oui, oui, oui. Et tout ça crée un mouvement à l'intérieur des êtres humains. Sinon, les romans, personne ne les lirait, je vous assure. Et les films, personne ne les verrait. Un bon film n'est pas la narration chronologique des faits. Si c'est ça, en 10 minutes, vous partez. Vous partez parce que vous verrez la vie que vous voyez dans la rue. Une séquence qui se suit, des gens qui marchent. Non, vous avez besoin d'un bruit, des freins, une portière qui s'ouvre, un pied, et vous êtes en train de voir plein de choses qu'on ne vous a pas montrées. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes capable d'analogie. Vous faites des liens analogiques, vous symbolisez. Terrible. On utilise tout ça sans le savoir, et c'est ça qui me fait toujours de la peine, parce qu'on n'éduque pas les gens pour leur dire, tu sais, une poésie alimente ton âme. Ah, et pourquoi ? Parce que ça dilate la conscience, ça permet de sortir des frontières qu'on s'impose par une simple logique fonctionnelle. Faut-il la logique fonctionnelle ? Aussi. Est-ce que je combats l'une contre l'autre ? Pas du tout. Il faut reconnecter les deux. Donc, le sacré, pour nous, a 4 fonctions. Et les modèles, le sacré donne des modèles, ou des archétypes, de comment faire, qu'est-ce que c'est, etc. Il y a des mythes, que c'est le récit. Le mythe est très intéressant comme récit. C'est un peu comme les contes. Il était une fois. Vous avez certainement raconté à vos gamins, il était une fois, blabla. Et vous avez vu qu'aucun gamin, aucun de vos enfants, petits-enfants ou neveux, vous a posé la question, mais c'est quand il était une fois ? Oui, parce que la raison, la logique aurait posé la question, c'est quand il était une fois ? Il y a 2 ans ? Il y a 1000 ans ? Non, parce qu'il était une fois, c'est hors de l'espace, hors du temps, dans un lieu de tous les temps, et l'enfant le comprend tout de suite. Parce que c'est quelque chose des permanents. Le monde du mythe est dans ce monde-là. Le vouloir le réduire, le mythe, à l'espace-temps, à la rationalisation, bon, mais ça devient le vider totalement de contenu. Et je peux vous assurer que vos enfants vous quitteraient à la première minute. Et les adultes aussi. Parce qu'eux aussi, ils aiment le théâtre et beaucoup d'autres choses. Pourquoi on dit évasion ? Je vais m'évader. Et je demande d'où ? Alcatraz, quelle est ta prison ? La raison. La raison résonante, l'analytique permanente, les détails du détail, à un moment donné, obsèdent. Donc il faut s'évader. La façon saine, donc, c'est qu'on s'évade avec une histoire, avec un récit mythique, etc. Les symboles, c'est le langage des mythes, mais aussi du pouvoir. Parce que puisqu'on parle du politique, il ne faut jamais oublier que le pouvoir politique utilise le symbolique en permanence. En permanence, c'est un de ses armes de pouvoir. Oui. Aller à une inauguration, le président tel, le ministre tel va inaugurer telle science, il le fera d'une certaine manière. Pourquoi il y va ? Mais pour faire un acte, pas simplement des présences, pour dire « Ah, c'est gentil ce que vous faites ». Non, 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 parce que il va procéder à un acte symbolique en affirmant certaines choses, par des gestes, simplement par des gestes. Un opposant politique, en brûlant un drapeau, qui est un tissu finalement, fait un acte politique. Parce que finalement, le drapeau ne coûte pas cher. Hein. Et dire à quelqu'un, bon, écoutez, on a brûlé un drapeau rouge avec une croix blanche dedans,
Bon, c'est rien. Et vous dites, mais comment c'est rien? C'est mon drapeau. Oui, parce que ce chiffon à la fin coloré vous identifie, vous donne une identité qui est liée à un monde affectif et pas simplement rationnel. Et l'élément symbolique relie l'affect à la logique. Ne pas tenir compte de ça est une catastrophe. C'est ce qui nous est arrivé en France. Là, au niveau symbolique, au niveau de l'imaginaire français, le président de la France, peu importe qui, est une fonction presque royale, pour simplifier. Bon, si un président dit « je vais être un président normal », c'est foutu. Mais c'est foutu en France, je ne sais pas si vous comprenez, pas ailleurs, en Norvège, non. Pour que ce soit clair. Mais parce que du point de vue symbolique, un président ne peut pas être normal. Et donc, pour que ça se transforme, il faut donc des gestes symboliques qui permettent la transformation. Mais si les gestes symboliques du politique pour cette transformation ne se font pas, alors le peuple ne comprend pas. Vous voyez, c'est simplement pour simplifier que je vous ai donné ces exemples. Ce qui n'a rien à voir avec des convictions politiques. C'est simplement un problème de fonctionnement. Je répète, le pouvoir politique utilise d'une façon très puissante et la dimension symbolique. Mais il se garde de le dire. Dans le discours, ça n'apparaît pas. Ou très peu. Et en politique internationale, bon, c'est la base. En diplomatie, je veux dire. Et même au niveau militaire. Parce que vous allez faire tel geste du point de vue militaire et pas un autre. Pourquoi on bombarde tel endroit? Pourquoi on envoie des troupes à tel endroit et pas à tel autre endroit? Bon, vous le réfléchissez, c'est pour vous amuser après. Bien. Donc, nous pouvons dire que l'imaginaire, le symbolique, etc., est indispensable à la dimension humaine, à la réalité de ce que nous sommes. S'il y a un déracinement, si politiquement on ne traite pas cette question, alors les ombres de la dimension symbolique apparaissent et les manipulations symboliques sont possibles. Comme les espaces intérieurs des gens sont étroits, petits, on va pouvoir convaincre des gens par des gestes très populistes, très démagogiques. Et ceci est un véritable problème. Parce que c'est chaque fois au parabus du symbolique, au rétrécissement de la dimension symbolique des individus, pour donner l'homme de masse, qui se produisent des totalitarismes au des actes de forte violence. Comme chaque génération a besoin d'une identité, si le pouvoir politique ne donne pas des éléments identitaires à la génération, si au niveau de l'éducation, la transmission identitaire du symbolique et du mythe qui compose l'identité d'un pays, d'une région, peu importe, n'est pas apportée, comme de toute façon, ils ont besoin d'une identité, ils vont la chercher de façon primaire. Et on ne peut pas les en vouloir, puisque c'est inconscient. Et les politiques devraient le savoir. Et donc, apparaissent donc des identités fabriquées, artificielles, non gérés d'une façon pacifique, et apparaissent alors du communautarisme, des excès terroristes, des fondamentalismes religieux, etc. C'est l'abandon du politique, de la dimension du sacré qui produit les pathologies que nous connaissons. Voilà par rapport à la relation, c'est ma réponse. Et ce n'est pas une question de gauche, droite, haut, bas. C'est un problème culturel. C'est un problème culturel qui s'est produit. Parce que, de bonne foi, je crois, les concepteurs de la modernité ont cru que les gens allaient devenir tous raisonnables, tous logiques, tous conscients, tous maîtres d'eux-mêmes, tous droits. C'est bien, non, de vouloir ça. Mais pour ça, il faut un effort très important, pas simplement du politique, mais de chaque individu. Parce que vous ne pouvez pas forcer tout le monde d'être droit. Bon, enfin. Entre-temps, le pouvoir, le symbolique, s'est réfugié dans le fantastique, dans les consoles de jeux. Et si vous regardez les consoles de jeux, ce sont tous des héros, des monstres, des personnages mythiques, et tout est un voyage d'aventure, héroïque, etc. Mais par contre, la société et le politique, l'héroïsme, les dépassements de soi, on n'en parle pas. Vous comprenez ? Donc, on laisse aux jeux et aux consoles, donc au commerce, le terrain des grands sujets symboliques et spirituels. Et chacun s'est fait sa mythologie. Il y a un grand prof américain, Campbell, Joseph Campbell, qui lui demande, bon, mais quand le pouvoir, quand le système n'éduque plus à la mythologie, qu'il n'y a plus de mythologie structurante. On est dans les années 80, hein, quand on lui pose la question. Il dit, vous n'avez qu'à lire les journaux et vous verrez qu'ils parlent des actions répréhensibles et violentes accomplies par les jeunes qui ignorent comment se comporter dans une société civilisée. En réalité, dit-il, la société ne leur a pas apporté les rites qui leur permettaient de devenir membres de la communauté à part entière. Voilà ce qu'il dit ce grand mythologue. Et il dit, je le cite, « Tous les enfants ont besoin d'une seconde naissance. Il leur faut apprendre à se comporter de façon rationnelle dans le monde actuel en abandonnant leur enfance derrière eux. Alors, dit-il, où les gosses prennent-ils leur mythe maintenant? Ils les créent eux-mêmes. D'où tous ces graffitis que nous voyons sur les murs des villes. Ces gosses forment leur propre tribu avec leur rite initiatique, leur moralité. Seulement, ils sont dangereux car leurs lois ne sont pas les nôtres. Je répète, leurs lois ne sont pas les nôtres. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas de lois. Ils ont des lois. Ils sont très codés. Très codés. Mais ils ne sont pas les nôtres. Voilà ce qui s'est produit comme phénomène. Nous parlons des États-Unis, et il y a une trentaine d'années, nous pourrons parler de l'Europe, ils n'ont pas été socialement initiés. Voilà la conclusion. J'explique dans mon livre que, une fois en regardant les nouvelles en France, et je regarde un reportage, des policiers, ça fait déjà une quinzaine d'années, étaient rentrés dans un de nos cités, et bien sûr, ils furent reçus avec des pierres, il faut attaquer, etc. Alors le journaliste est allé voir le responsable du groupe qui avait attaqué la police, qui a dû reculer, et il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça si il passait? Ah oui, mais, dit le garçon, ils sont rentrés dans notre territoire. Donc, s'ils voulaient rentrer en paix, ils seraient arrêtés à la frontière et demandaient des palabrés. On aurait discuté, ils auraient pu passer. C'est-à-dire que nous sommes en pleine tribu, dans la jungle. C'est-à-dire, moi, en ethnologie, je sais que si je veux dans une peuplade que je ne connais pas ou un groupe que je ne connais pas, je sais que je dois me placer au seuil, j'ai fait un échange de cadeaux, on s'explique et on passe, parce que l'accueil est bon. Oui, mais je le sais, on est dans le logis, dans la jungle, vous voyez ce que je veux dire. Mais en réalité, dans nos villes, c'est la même chose. Parce qu'on a produit, en fait, des tribus primitives qu'il faut traiter en ethnologue, avec des gestes, des rites, des symboles, etc. Parce que ce n'est pas ni avec la force, la violence amène la violence, ce n'est pas avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être permissif, je dis simplement que ça ne suffit pas, la répression ne servira pas. Il va falloir rentrer à leur niveau, se placer à leur niveau pour leur sortir de ce niveau. Et ça, c'est une énorme responsabilité du politique. Je vous explique des choses qui sont dures, peut-être, mais il y a des solutions, puisque nous, jamais on a aussi bien compris les différents mécanismes. Comme ethnologue, anthropologue, ces choses, on sait, on les connaît. On peut former les gens. Ce n'est pas un problème technique. J'insiste, ce n'est pas un problème technique. Parce que les gens me disent, mais comment on va faire? Le problème n'est pas comment on va faire. Le problème, c'est si on veut le faire. C'est différent. Parce que ce sont des problèmes que nous connaissons et auxquels on peut apporter des solutions. Peut-être il y a 40 ans, non. Parce qu'on n'était pas aussi rodé pour comprendre tout ce que je vous explique. Aujourd'hui, oui. 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 C'est pour ça que je dis, il faut rester positif. Dans ce cadre-là, je voulais pour clore, parce que sinon je sais que vous me regardez mal, et après on fera les questions, bien sûr. Vous parlez d'un autre sujet qui est en rapport. Qui est en rapport à la dimension spirituelle, la difficulté de notre société actuelle à comprendre la dimension spirituelle. Je vais vous lire un petit papier que j'avais fait. Donc, comme ça, ça va aller vite, j'espère. L'Europe et la France n'arrivent plus à comprendre les mécanismes spirituels qui rendent possible la radicalisation djihadiste. Ça va vous faire probablement une passerelle pour la prochaine conférence. Ne considérant que les facteurs sociaux, économiques ou psychologiques conduisant au djihadisme. Nous refusons d'appréhender ce phénomène dans sa dimension transcendante et refusons de voir le besoin spirituel qu'il traduit. Dans la revanche des passions, métamorphose de la violence et crise du politique, Pierre Asner, c'est un auteur que je vous conseille, qui est un des disciples de Raymond Aron, se demande si nous n'aurions rien appris du XXe siècle pour construire et comprendre le XXIe siècle. Il y aurait comme une fatalité, une sorte d'âge de terrorisme apocalyptique et du fanatisme religieux, une sorte d'hybris impérial et du nettoyage ethnique. Le XXIe siècle succéderait ainsi à l'âge du totalitarisme, du fanatisme idéologique, du goulag et de la Shoah du XXe siècle. Parce qu'en réalité, dans beaucoup d'éléments, l'islamisme a remplacé le marxisme. Du point de vue de l'imaginaire, je sais que vous me direz, mais non, je vous dis structurellement, oui. Oui. Depuis les années 90, les hommes ont parié sur un être homo economicus, globalisé, mais ils ont oublié, et c'est important, les passions. Ils ont ignoré que les comportements humains ne provenaient pas de la seule économie. Pour Pierre Asner, comme Pierre Asner l'explique, on a ignoré les comportements qui sont héroïques, ou plus exactement créateurs d'identité, comme l'attachement à la nation, à la religion, le patriotisme, les désirs de violence, bon, etc. On peut encore citer la lutte du parti des purs d'un totalitarisme religieux guerrier succède au totalitarisme idéologique. Dans ce contexte, il y a un livre qui est paru en janvier en France, de Jean Birnbaum, qui est le directeur de la section Livres du Monde. Il s'appelle « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme ». Et j'écris à ce moment-là qu'il est les bienvenus, ces livres, je le félicite. Pas parce que je suis de tel parti, mais parce que c'est un événement. L'auteur constate l'incapacité de la gauche à appréhender l'islamisme, tentant désespérément de le ramener à la seule dimension sociale. En évacuant la religion de son mode de pensée, dit-il, elle se condamne à ne rien comprendre de ce qui se joue. Et ça, c'est une nouveauté énorme. Comme d'autres, il comprend plutôt que le terrorisme islamique n'est hélas pas un nihilisme. C'est pas un nihilisme. C'est pas quelqu'un qui croit en rien et qui va au vide. En effet, il est commode de se dire que ces individus qui s'en prennent si violemment aux citoyens ne croient en rien. Dans un pays comme la France, et qu'ils ont perdu d'avance face au déni des valeurs et des principes intangibles et universels. Ce n'est pas la mort en tant que telle qui est désirée par les djihadistes. C'est ce qu'il y a après, et le prestige associé à une mort martyre au nom de Dieu. C'est l'exaltation de se soumettre à une cause plus grande qu'elle. Bien que ces discours puissent heurter la raison, s'avéraient incompatibles avec elle et la scandaliser, il est cohérent au niveau d'un discours religieux. Dans une interprétation littérale, évidemment. Plus commune qu'on le pense, malheureusement. Et il ne faut pas oublier que le christianisme est également passé par là. Comme le dit Jean Birnbaum, en reprenant Pascal, en réalité, parce qu'en réalité, il cite Pascal, pour ceux qui n'y croient pas, les contenus de la foi sont toujours absurdes. Inversement, pour ceux qui croient, l'existence de Dieu s'éprouve, mais ne s'éprouve pas. Donc c'est une discussion impossible. Notre société occidentale sécularisée ne reconnaît plus la force de l'expérience de l'autonomie religieuse. Parce que l'expérience religieuse est individuelle et autonome. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Parce que ça concerne l'individu. Marcel Gaucher nous prévient. Ces dénis, cet embarras, cette perplexité montre en fait à quel point nous sommes sortis de la religion. Nous en sommes tellement loin que le pouvoir des mobilisations qu'elle conserve nous échappe. Parce que maintenant, il découvre que ça mobilise. Les religions sont des phénomènes en soi qui existent hors des conditions historiques ou sociales particulières, qui les ont vues naître. Il y a toujours un contexte historique et social, mais le phénomène religieux, le fait religieux est autonome de ces événements. À l'exception de quelques philosophes et des très rares sociologues, les sciences sociales ont depuis 50 ans largement ignoré en France l'enjeu en raison de l'exculturation religieuse de nos sociétés contemporaines, qui ne sont plus en mesure de comprendre la force du religieux dans une société, en raison aussi de ce que les religieux étaient déclarés vestiges résiduels du passé, par ignorance de la vitalité religieuse d'autres continents et d'autres religions que le christianisme. Écrivez, parce que je cite là, des historiens Denis Crousset et Jeanne-Marie Légal au lendemain des attentats de janvier 2015. Dans leur projet d'émancipation à l'égard de la religion, ces courants ont mésestimé la dimension du sacré dans toute société, tel que je l'ai essayé de démontrer dans mon livre « Le sacré camouflé ». Une fois apparemment chassé, il revient camoufler le sacré dans les grandes tendances de notre société sécularisée. Il nous paraît urgent de reprendre au sérieux le courant des synthèses initiées par Ernst Cassirer, qui est à l'origine d'un vaste recentrage de l'anthropologie sur les mythes et les phénomènes essentiels qu'ils fondent, le symbole. Dans ce courant, l'homme n'est plus considéré simplement comme un être physique, social, économique, émotionnel, mais capable, grâce à son imagination, de vivre une expérience du sacré et de devenir alors homo religiosus. À travers son étude, on peut constater que le sacré est un élément de la structure de la conscience et non un stade dans l'histoire de la conscience. Le sacré est alors considéré comme une réalité en soi, comme une constante irréductible de l'homme. Comme l'explique Roger Bastide, dans nos sociétés, la raison est coupée de l'affectivité. Si radicalement qu'elle se laisse désormais conduire autant par les fantasmes que par l'observation objective ou la règle de la mathématique. Cet éclatement des repères nous laisse dans une totale confusion des sens et explique une partie des crises vécues par nos contemporains qui en réalité ont une cause religieuse plutôt que sociale et économique. Incapables de prendre la religion au sérieux, comment pourrions-nous comprendre ce qui se passe actuellement ? À savoir le regain de la quête spirituelle, mais surtout le retour d'un fanatisme qui en est la perversion violente. Par peur du populisme, on nie la réalité. Et c'est un des graves problèmes que nous devons considérer par rapport à au rapport entre le politique et la religion. Et avec ces mots, je conclue. Merci.
Bien le temps des questions, je vais vous donner la parole. Voilà, je vois qu'il y a déjà deux mains qui se lèvent devant, puis derrière. Voilà, alors, je vous passe la parole.
Il faudrait donc militer pour introduire l'anthropologie à l'ENA ?
Oui. Mais on était à deux doigts, hein. Mais ça n'a pas marché. Non, mais avec Edgar Morin, on avait fait à l'école de haute étude beaucoup de choses. Mais bon, les lobbies sont très puissants.
A-t-on tenté d'établir un rapprochement avec ce qui pouvait se passer dans les civilisations anciennes comme la romaine ou la grecque pour en tirer quelques enseignements ou alors rien du tout, je ne sais pas.
Malheureusement, on a tiré très peu d'enseignements. Mais, puisque vous me donnez la perche, je sais que les Romains n'ont pas toujours la bonne cote. Mais ils avaient un très grand éclecticisme religieux. Et s'il y a eu des persécutions pour le christianisme, et qui furent exagérées en partie, mais je ne veux pas m'étendre, mais il y a eu, ce fut par le fait de ne pas vouloir reconnaître l'empereur.
L'empereur.
Mais en réalité, l'expérience romaine est intéressante dans le sens que les gens pouvaient avoir la religion qu'ils souhaitaient à condition de respecter les lois de l'Empire, qui n'empêchait pas le culte religieux. Mais il fallait une patente, il fallait un agrément, enfin, être une association déclarée. Si on veut transformer. Bon. quand on rentre dans l'exclusivisme, ça devient plus difficile, la tolérance. C'est ça que je peux simplement dire.
Je viendrai dans un instant dans la deuxième partie de la salle.
Merci, je m'appelle André Castella. Merci pour votre brillant exposé. Ce qui fonde ce cycle de conférences, c'est le projet de loi sur la laïcité de l'État, et puis d'ailleurs l'intitulé du cycle est très parlant, « Politique et religion ». Vous savez, je ne sais pas ce que vous connaissez ou pas du système politique à Genève, en tout cas, il y a un Parlement composé de 100 membres, 100 députés, qui vont devoir prochainement voter pour ou contre ce projet de loi sur la laïcité de l'État. Alors, je vais faire un petit sondage, si vous permettez, avant de vous poser la question. Est-ce qu'il y a des députés dans la salle ? D'accord.
Pas moi.
Donc, il n'y a pas de députés. Ce cycle de conférences qui les concerne au premier chef, eh bien, il n'y a pas de députés. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils municipaux ? Je ne sais pas, ce serait vraiment bien. Peut-être il y en a. Mais
un conseiller.
D'accord. Ben, je salue sa présence, qui sauve un petit peu l'honneur, mais toujours est-il que c'est en tout cas pas un conseil municipal qui votera le projet de loi sur la laïcité de l'État.
Mais il ne faut pas la vouloir.
Ce que je veux dire, parce que vous avez souvent fait le lien entre politique, d'ailleurs c'est aussi votre rôle, et le sacré, et qui mène au religieux. Donc, comment faire en sorte que les éthologues, anthropologues, sociologues, philosophes parlent aux politiques, comment les approcher, comment attirer leur oreille, plutôt que ce soit des charlatans, qui, eux, sont bien plus souvent écoutés, selon moi, c'est une opinion personnelle, que les philosophes et autres chercheurs et savants. Voilà ma question.
Mais la question, moi, je ne peux pas vous la résoudre. Non, mais je vais dire que c'est une bonne question. Le problème qu'il faut comprendre aujourd'hui, si vous me permettez deux minutes, avec le temps, l'influence des intellectuels a baissé. La culture a baissé. Donc, si dans les années 60 ou 70 ou encore 80, la parole d'un intellectuel pouvait être intéressante ou écoutée, je ne parle toujours du politique, aujourd'hui, il faut être à la mode et dans un discours qui se suit par rapport à ce qui est correct. Donc, beaucoup plus difficile, parce que les politiques eux-mêmes ne veulent pas. C'est-à-dire, la scission est faite. Donc, c'est mon expérience, c'est qu'il faut recréer des réseaux hors système. Je ne dis pas qu'il faut casser le système. J'ai dit que si on veut changer les choses, il faut que les citoyens n'attendent pas des institutions grand-chose pour pouvoir recréer des alternatives. Donc, cette rencontre, même s'il n'y a pas de députés, et encore un conseiller municipal, est très utile, parce que c'est par capillarité que les changements vont se faire. Parce que c'est ça qui est en train, de changer, c'est les modes d'influence de comment travailler l'opinion publique. Donc, le messianisme, l'élément massif, les grands meetings, tout ça, oublié, ça ne marche pas. On a changé d'époque. L'époque, aujourd'hui, va à la confiance de celui qu'on connaît. Donc, il faut partager, sensibiliser, créer une chaîne pour pouvoir avoir une force. Sinon, à mon avis, ce n'est pas possible. Moi, je suis en train de voir, notamment en France, beaucoup d'expériences aux marges, très positives, très utiles, des alternatives intéressantes qui vont de comment travailler la terre, les énergies, les modes d'administration, et ça se fait. Personne n'attend personne. Donc on a... Parce que nous ne sommes plus dans la modernité. Bon, je n'ai pas voulu... Nous ne sommes plus dans la modernité. La modernité croyait à la raison, croyait au progrès permanent, quand il y a l'unification et l'homogénéisation de tout. C'est fini, le moule est cassé. La raison ne peut pas tout expliquer aujourd'hui, on ne peut pas réunir toutes les connaissances dans un corpus cohérent. Le progrès aujourd'hui est considéré à beaucoup d'égards dangereux. Donc d'un coup, le monde linéaire, la progression, aujourd'hui les nouveaux modèles économiques ne produisent pas des croissances. Nous ne sommes pas dans une période de croissance. Parce qu'en réalité, on est arrivé au bout d'un certain modèle. Donc, d'un coup, les réflexions changent totalement. Il y a ceux qui continuent à penser le monde comme s'il était moderne, mais nous sommes transmodernes. Et il y a une rénovation totale des tissus sociaux qui s'est faite devant nous, sans qu'on se rende compte. Ce n'est pas visible. Je sais d'expliquer. Et donc, il faut donc travailler par réseau et par groupe. Voilà ce que je peux dire.
Je peux
Oui, ça, ici. Oui, Vincent Villemain, merci infiniment pour votre conférence fascinante. J'imagine que vous l'avez dit d'une certaine façon, mais je ne suis pas certain de l'avoir saisi complètement. Excusez mon ignorance. Donc, considérez-vous l'archétype du sacré comme premier et intemporel, ou est-ce qu'il porte en lui-même une dynamique qui pourrait évoluer au cours des âges et des civilisations? Sinon, il est sans cause et on pourrait dire qu'il est essentiel.
Le sacré en tant que tel est intemporel. Ses manifestations sont temporelles. Nous sommes devant une fonctionnalité qui est permanente, qui a simplement comme fonction, simplement entre guillemets, pouvoir voir au-delà des apparences et donner un sens aux choses qui n'est plus fonctionnel, matériel simplement, utilitaire. Le sacré va se dévouer sur des choses qui ne sont pas utilitaires, mais la symbolisation, la mythologisation, elle change à chaque époque. Donc la fonction est permanente, comme la mémoire, comme la logique, mais elle évolue par rapport au contexte historique du moment. Voilà ce qui est compliqué, parce qu'il y a une phénoménologie du sacré, et en même temps, il y a une permanence du sacré.
Oui, merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui était d'une richesse assez exceptionnelle, qui est très iconoclaste aussi. C'est ce qui est intéressant. En vous écoutant, je me disais, au fond, ce que M. Schwartz dit, c'est que nous passons par pertes et profits ce que nous a enseigné, ou en tout cas ce dont ce qu'on nous a dit du siècle des Lumières, parce que le siècle des Lumières, ça n'était pas, contrairement à ce qu'on croit, uniquement la raison, c'était aussi une part émotive, culturelle, etc. Mais elle s'est pervertie, cet enseignement s'est perverti, et aujourd'hui, nous en sommes là. Et dans ce contexte-là, je vous rejoins totalement, le politique a joué un rôle absolument déterminant, et il a commis, je crois qu'il n'a eu de cesse, le politique, de désacraliser notre monde, de lui enlever toute cette part de sacré. Et est-ce que vous diriez aujourd'hui, notamment, que le politique est responsable au titre d'avoir inventé l'État-providence, il est responsable au titre d'avoir voulu intégrer l'Europe sous un chapeau purement rationnel, il est responsable d'avoir inventé les droits de l'homme, qui sont aussi d'une rationalité presque absolue? Je pourrais allonger la liste, mais sur ces trois questions, qu'est-ce que vous diriez?
Ça fait beaucoup, hein? Mais les politiques sont faites d'hommes. Donc, il y a des hommes qui sont responsables. Parce que sinon, c'est facile. Donc, bon, je ne vais pas donner les noms, etc., parce qu'il y a des courants de pensée. Je suis d'accord avec vous que les Lumières n'étaient pas que la raison. On est d'accord. mais on n'a gardé que ça. Parce qu'il y a aussi l'ouverture même sexuelle et autres. Il y a eu beaucoup de choses à cette époque-là. Mais bon, chacun prend ce qui lui convient. Et si l'État-providence était créé, c'est parce qu'il y a une continuité biblique. Dieu et la providence, on est d'accord, mais quand on descend Dieu à la société, le politique devient la providence. Donc, c'est une utilisation d'une source biblique, chrétienne, et pour des fins de gouvernance sociale. Et, de ce point de vue, le politique a continué à traiter les êtres humains en petits-enfants. Parce que c'est tout le problème. Si tout est providence, et on n'est plus responsable. Donc, il faut comprendre qu'il y a un héritage culturel qui est repris. Le marxisme, quand il va introduire tout ce concept, va créer une nouvelle religion. Athée. Mais moi, ce qui m'a impressionné quand je suis allé à Moscou, c'était tout le dispositif de la place Rouge, qui est devenu un extraordinaire centre cérémoniel. Pas simplement pour des défilés militaires et autres, mais il avait une pyramide avec sa momie, celle de Lénine. Et j'étais stupéfait, parce que quand on n'y va pas, on ne voit pas. Mais d'un coup, on dit, mais quand même. Et ils ont fait leur système religieux, avec la lutte contre le mal, et bon, le paradis est sur terre. Donc, il y a une grande partie du politique qui s'est inspirée des religions. Ils ont désacralisé, mais ils ont resacralisé leur idéologie et leur fonctionnement. Donc, ils ont utilisé, peut-être à contrario, les mêmes outils. Parce que si Staline est le père du peuple, bon, etc. Donc, je ne dis pas que tous les politiques ont fait pareil. Je dis simplement que moi, c'était assez étonnant. Comme l'était aussi l'énorme acharnement contre l'Église orthodoxe qu'il y a eu en Union soviétique et les retours en force de l'Église orthodoxe actuelle. Donc, il est très difficile de couper les racines, contrairement à ce qu'on pensait. La Révolution, à peu près, a fait pareil. Et les préfectures sont calquées sur les diocèses. Le préfet est en fait le maître de la diocèse, c'est lui qui dit ce qui est moral. Donc, nous changeons de personnage, d'autres finalités peut-être, mais la fonction, les fonctions. C'est ça qui est curieux, qu'il faut méditer. Il doit y avoir un truc. Ou c'est la batterie, ou c'est la bouche, ou... Oui, oui, parce que je connais. Chaque fois que j'ai un comme ça, j'ai peur, parce qu'au milieu des discours, c'est l'expérience. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas savoir... Oui, oui.
centre des Chiles. Et donc pour faire cette opération, le libéralisme a dit le lieu du sacré n'est pas occupé par le politique, il est vide. Donc ça veut dire constituer une société dans laquelle le sacré n'est pas au cœur du politique. Donc ma question c'est, est-ce que ce modèle à votre avis est viable ou est-ce que c'est une contradiction logique ?
Une ?
Contradiction logique.
C'est une contradiction logique.
Merci.
Si on veut résumer, c'est une contradiction logique.
Merci. Voilà,
Pendant qu'il y aura des hommes, il faut accepter l'être humain dans son ensemble, y compris pour les modèles économiques c'est, ou politiques. Ce qui ne veut pas dire la prédominance d'une religion par rapport à une autre ou des choses de cet ordre-là, qui me semble totalement inadéquate, enfin, en ce qui me concerne.
Je reste à l'arrière de la salle, puis je remonterai.
Le micro fonctionne de nouveau.
D'accord. Vous avez parlé de la responsabilité des politiques. Qu'en est-il de la responsabilité des médias ? Les médias, ici à Genève, le cadre de référence est souvent la France. Quand on parle d'église, on parle par définition de l'église catholique. Quand il s'agit de parler d'un pasteur, on va parler de prêtre, etc. Donc, méconnaissance et ignorance. En plus, les médias ont toujours font appel à des personnages médiatiques. Et actuellement, souvent, on fait appel à des représentants de religion qui monopolisent le savoir au lieu d'éclairer la base. Je parle des problèmes, vous avez parlé de l'islam, donc c'est flagrant. Il y a des porte-paroles d'un islam éclairé qui dénoncent l'appel récurrent à quelques personnages qui sont bien connus à Genève aussi et qui sont, font plutôt œuvre d'obscurantisme que de lumière. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rectifier le tir là et gagner les médias à plus de discernement, ne pas s'arrêter à une lecture au premier degré, faire appel à des personnages médiatiques, mais qui ne font pas œuvre de lumière? C'est la première question. Et la deuxième, la langue. Donc, vous avez mentionné le territoire, la banlieue, le policier ou le journaliste qui demandait aux jeunes pourquoi vous caillassez la police. Je rappelle Sarkozy qui, à l'époque, avait dit « Nettoyez-moi ça au Karcher ». Donc, en Grande-Bretagne, il y a eu des études qui ont prouvé que la violence, donc la surenchère de la violence, était le fait de la police. Donc, la question du langage, non pas Karcher, mais s'adresser dans les codes des jeunes de banlieue. Donc, ça demande une police qui soit au fait, une police de proximité ou davantage formée pour faire face à ces violences.
Bon, mais c'est un plan déjà. Je ne peux pas répondre trop en détail. Et pour les médias fonctionnent par rapport à ce qui est le plus simple. C'est le métier des médias. Le problème, c'est qu'il faut des lobbies. Quand je dis lobby, je ne dis pas dans le mauvais sens. Il faut des groupes d'influence, sinon les médias ne vont pas bouger. Parce qu'ils bougent par rapport à des groupes d'influence. Il ne faut pas se voiler la face. Et par rapport au langage du politique, ce que Sarkozy a dit, il s'est adressé symboliquement à une partie d'un électorat qu'il voulait gagner, qui est extrémiste. Donc, ce dérapage, entre guillemets, verbal, était conscient par rapport à une partie d'un électorat qui voulait gagner. Donc, c'était du symbolique. Je ne suis pas en train de dire que c'était génial. Hein. Je dis simplement que c'était du symbolique.
Voici une dernière question.
Alors, ce n'est pas tant une question qu'ajouter une pierre à votre édifice extraordinaire. À savoir que dans le temple antique, sous le même toit, il y avait trois activités, le soin des âmes, le soin des corps et le soin des biens. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas seulement un prêtre, mais on trouvait des médecins et on trouvait des banquiers. Chacun s'occupait en fait de son domaine, et si vous regardez aujourd'hui la société, le grand problème, des problèmes médicaux, des problèmes bancaires, et finalement, les âmes, point d'interrogation.
Merci.
Eh bien...
Bon, moi, ça vous a...
Oui. C'est la fonction que vous nous avez si bien décrite que chacun a reconstitué une autre conférence de Fernand Schwartz pour laquelle nous vous remercions très vivement.
Merci, merci de m'avoir écouté.
J'ai trois informations à vous transmettre. La première, vous le savez, mardi prochain, le 24 mai, c'est Philippe Gonzalez qui, lui, nous viendra de Lausanne, qui nous parlera des intégrismes et des fondamentalismes. Vous devinez l'importance et l'actualité du sujet. Pardon, ça j'ai pas repéré. Excusez-moi, est-ce que M. Gonzalez peut se lever? Oh, excusez-moi. Très bien. Alors... Ah, on ne peut pas tout savoir, merci. La deuxième information, c'est que l'ouvrage de Fernand Schwartz édité par Eric Caboussa, les éditions Cabedita sont ici. Il est en vente au prix de 29 francs. Eric Caboussa sera derrière la table pour s'occuper de la suite de la démarche. Dernière information, puisqu'il a été question de capillarité et de réseau, j'ai entendu ces mots comme vous, j'aimerais vous obligés, je ne fais pas de prosélytisme, vous avez remarqué, en quittant cette salle, à prendre sur les tables qui sont là ce papier qui vous explique ce pourquoi le groupe culture religieuse et humaniste à l'école laïque se bat depuis 15 ans. Vous devinez que cet effort de 15 ans prend une actualité particulière puisqu'on approche du vote de cette nouvelle loi sur la laïcité. Pour votre information, sachez que nous sommes un peu échaudés parce que au mois de septembre dernier, malgré un baroud d'honneur, lorsqu'il y a eu le vote de la loi sur l'instruction publique, malheureusement, nous n'avons eu que 33 voix contre 55 pour qu'une phrase tout à fait anodine soit mise dans la loi sur l'instruction publique. Cette phrase disait, je cite de mémoire, l'enseignement vise à équiper les jeunes pour leurs convictions politiques et religieuses. Politiques et religieuses. Il n'y a eu que 33 députés pour soutenir cette motion. Donc je veux dire par là, et c'est une exhortation, si vous pouvez prendre ce papier et par capillarité et par réseau en parler autour de vous, je pense que vous ferez œuvre utile. Avant de vous quitter, j'ai la noble tâche, j'ai une promotion rapide ce soir, de remercier Fernand Schwartz, ça on l'a fait ensemble, mais de lui offrir au nom de l'Institut National Genevois, dont, excusez du peu, je ne suis pas encore membre, l'ouvrage est Genève devint Suisse. C'est la première partie du cadeau et la deuxième partie, c'est une carte de membre pour l'année 2016. Voici le cadeau.
Bon, je pars avec quand même la carte. C'est pas la carte du parti.
Nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous vous remercions d'être venus et peut-être à la semaine prochaine. Au revoir.